Bienvenue dans l'univers des podcasts, les salles du français qui se donnent comme mission, qui sont là pour expliquer l'importance du français et parler de ce sujet sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, moi-même, Guillaume Ratté-Côté, votre humble serviteur, on s'entretient avec Antoine Dubé, qui a été député de Lévis pour le Bloc québécois pendant une bonne dizaine d'années. Merci d'être avec nous, Antoine Dubé. Bien le bonjour.
Bonjour.
On parle de langue française ensemble, sans limitation, presque sans ligne directrice. On se fait une réflexion globale. En commençant par la conscience de l'importance de la langue, Antoine, on se connaît, on peut se tutoyer, tu as œuvré en politique de façon générale combien de temps en fait? Plusieurs années plus que ta présence dans la députation à la Chambre des communes.
Comme député du Bloc, là, comme à Ottawa, mais j'ai été presque 7 ans environ attaché politique pour Jean Garon.
Voilà.
Auparavant. Entre les années 80 et 87. Là.
Okay.
Et puis j'ai été militant pour le Parti québécois.
Bon.
Mais je suis aussi encore un militant nationaliste, puisque je suis encore président de la Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches.
Voilà, merci de compléter la présentation. Je reviens au début de tout ça. Dans ce qui a pu te pousser à aller vers ce métier-là, cet univers-là qui n'est pas nécessairement le moins hostile au monde, la préoccupation du français, est-ce que c'était quelque chose qui avait une place primordiale dans les motivations au début de la carrière politique? Même que ce soit pour militer.
En fait, ma motivation à m'impliquer comme militant, là, ça remonte à 1969. Comme plusieurs, d'ailleurs, c'était à l'époque de l'adoption du Bill 63.
Oui, OK.
Qui était un projet de loi de l'Union nationale.
Oui.
Jean-Jacques Bertrand.
Oui, oui.
Et qui suite aux contestations de la fameuse école de Saint-Léonard, les Italiens notamment,
oui.
S'opposaient à la fermeture de l'école anglaise là, dans ce territoire-là de la ville de Montréal.
Mm-hmm.
Et puis là, ça avait amené l'agitation de divers côtés, mais le gouvernement de l'Union nationale avait décidé d'adopter ce projet de loi-là, qui à première vue était pour la promotion du français,
ouais.
Mais qui dans les faits permettait le libre choix de la langue d'enseignement. Les immigrants, les nouveaux arrivants à Montréal à l'époque, qui voulaient aller à l'école anglaise parce que l'anglais était plus attractif, hein, mm-hmm. c'était la langue des affaires, la langue pour réussir, pour les enfants, tout ça. Alors, évidemment, ça a amené une réaction du côté des francophones de Montréal puis de tout le Québec parce que au mois d'octobre de cette année-là, il s'est ramassé quelque chose comme 50 000 personnes devant l'Assemblée nationale en opposition à cette loi.
OK. Et dans ton cas, ça a rentré, ça a fait des effets. Est-ce que carrément, c'est ce qui a fabriqué ta fibre souverainiste ou ça, c'était déjà présent et ça a été une motivation pour en faire plus dans les deux sens, pour la langue et vers la souveraineté?
Moi, en fait, la souveraineté est un moyen. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le fait français qui me motivait tout d'abord. Moi, jusque-là, j'étais originaire d'une région du bas du fleuve, le Témiscouata, où la population, le taux de francophones était d'environ 98%.
Mm-hmm.
Il y avait bien des gens chez nous qui allaient travailler dans le Maine comme forestiers.
Nouveau-Brunswick.
On passait les patates comme travailleurs occasionnels dans le Maine.
Oui.
Mais, disons, la rivalité, ou comment dire, il n'y avait pas d'antagonisme. Alors, il n'y avait rien qui me portait jusqu'à cet événement-là. Puis moi, en 1969, j'étais allé, je ne devrais pas dire ça, ça a pris, j'avais 22 ans, j'étais allé 21 dans l'hiver. Je suis allé pour la première fois à Montréal. Je sortais de ma zone rurale pour aller à Montréal. Ouais. J'étais allé voir, l'année d'après, de deux ans après l'expo, ça existait encore, j'étais allé voir ça. Puis j'ai aussi, j'avais des cousins, tout ça, je demeurais à Montréal pendant un mois, puis je me disais, bien, pourquoi pas me trouver un emploi d'été. Et là, je me suis rendu compte, dans ce contexte-là, que c'était pas si facile que ça. Puis dans les formulaires qu'on se faisait remplir, bien, connaissez-vous l'anglais? Alors, évidemment, pour des emplois de manœuvre, c'était pas nécessaire, mais pour dès que je voulais rentrer dans un bureau, l'anglais, c'était
ou dans le commerce, ou dans le service. Et c'était une condition, c'est bien le mot, je l'ai un peu escamoté de ta bouche, là, mais c'était la condition. Alors, c'était une des lacunes qui, à l'époque, t'avait fait sourciller. Il y avait d'autres lacunes, j'imagine, pour ce que tu voyais du traitement du français au Québec?
Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a éveillé à la cause là, à partir de ce moment-là. Puis, pour dire qu'en 1969, il se passait toutes sortes de choses, là. Il y avait les États généraux organisés par la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste à l'époque.
Okay.
Et c'est en 69, là, qui était l'aboutissement sur deux ou trois ans, et que finalement, le mot québécois est apparu. On voit là, que c'était le français, oui, mais c'est un français identitaire, c'est identifié.
On acceptait notre langage particulier à ce moment-là, la coupure s'est faite, on le cachait précédemment, surtout dans les médias, même si ça s'est poursuivi. Mais il y a des gens comme Michel Tremblay qui commençaient à produire puis à populariser cette langue-là qui était...
Appelons-les le joual.
Le joual. Est-ce que tu as vu ça à un moment ou à un autre, ce joual-là, comme une lacune à l'époque? Est-ce que tu as déjà des souvenirs d'avoir perçu la chose comme gênante? Un peu.
Ben, moi, je suis arrivé dans une école qui voulait se transformer en cégep, là, qui était le foyer patro de Rivière-du-Loup, à l'école de métier, pardon,
okay.
Et qui s'est transformé en cours de route à la troisième année en cégep. Mais là aussi, ça avait fait l'objet de revendications, de manifestations et tout ça. Mais alors, c'était important, finalement, le français est apparu à travers ça. Donc, c'est un contexte assez particulier. Il y avait un mouvement à Montréal qui était le McGill français. On voulait transformer l'université McGill en université francophone. Ça a amené la création de l'UQAM et puis des autres divisions des autres universités un peu partout au Québec. Là. L'Université de Québec à Rimouski, partout, en fait. Là. Alors, c'était dans ce contexte-là. Alors, c'était le début d'une mobilisation. Mais à ce moment-là, je faisais pas nécessairement lien avec la politique.
Je reviens sur le joual. J'entends que c'était pas quelque chose qui te dérangeait en soi. C'était pas perçu comme une lacune pour le français. Bon, à part peut-être à Montréal, le fait qu'on exigeait tant l'anglais, est-ce que tu percevais d'autres problèmes? Je sais pas, moi, le taux de capacité à l'écrire... comme il se doit, des problèmes de communication avec les gouvernements? Est-ce qu'il y avait d'autres préoccupations?
On peut dire qu'il y avait une espèce de clivage. Par exemple, dans ma famille, on était 8-4 gars, puis finalement, c'était de bonne comment je dirais, il y a un des fils, maman, elle voulait absolument qu'il y ait un de ses fils qui fasse prêtre.
Oui, le classique.
Il est allé au petit séminaire à Rimouski.
Okay.
Alors, c'était l'école classique là, qui existait avant les cégeps. C'était les collèges privés, les collèges privés, des fois associés au diocèse, etc. Alors, c'était l'éducation pour l'élite, une certaine élite, les meilleurs dans une famille, ceux qui avaient plus d'aptitude. Alors que, finalement, à l'arrivée des cégeps, C'était dans la foulée de l'après-rapport parent, l'instruction à tous, l'éducation à tous, le plus grand nombre possible. Alors, dans ce courant-là, bien sûr, on avait les professeurs, les gens qui étaient déjà dans ces milieux d'enseignement-là, ils parlaient un français impeccable, un français de France, hein, très bien roulé. Et moi, comme jeune, j'étais plutôt identitaire, mais plus... associé au voile. Je dis pas que j'étais fier de parler voile, mais c'était
pas sur le crayon,
c'était la langue des gens qui m'entouraient.
Bon, Et il n'y avait pas de gêne derrière ça. Tu as travaillé pour le Parti québécois, mais puis on va en parler, mais avant leur arrivée à l'Assemblée nationale, il y a eu du travail de fait par le Parti libéral sous Bourassa, même sous Le Sage. Est-ce que tu avais quand même une appréciation de ce qu'il avait pu proposer pour la langue française précédemment?
Avant sous Le Sage, il n'en restait, si on peut le dire.
Oui.
C'est plus Robert Bourassa qui lui, soit dit en passant, dans la suscitante, le Parti libéral, en 68, il y a eu une division. Robert Bourassa a été tenté de suivre René Lévesque.
Oui.
Parce qu'il y a eu des départs des députés. Puis finalement, Robert Bourassa est resté au Parti libéral. Puis lorsque la course à chefferie est arrivée, je pense, avant l'élection de 70, ben, il a décidé de s'enligner au Parti libéral. Mais il y avait une nette division là, au sein de la troupe libérale. C'était pas évident. Il y avait les libéraux, même dans ce temps-là, les libéraux de Montréal, puis la région de Montréal, puis associés aux anglophones.
Voilà.
Puis il y avait les autres qui étaient au Québec.
Plus de la gang de Bourassa.
On
de
ce en que parle je encore aujourd'hui, mais ça existait aussi dans ce temps-là.
C'était plus de la gang à Bourassa, d'ailleurs, au Québec. Bourassa était un peu plus nationaliste que l'autre frange. Et il a amené quand même... C'est la loi... c'est-tu 21? Où il a quand même amené des normes.
La loi 22.
La loi 22, pardon.
Tu t'es trompé d'un.
J'étais pas si loin. Et ça...
La loi 22, ben, qui était. Mais la loi 22, ce qu'elle venait apporter, là, c'est que pour pouvoir aller à l'école, envoyer ses enfants à l'école de son choix, il fallait qu'il démontre. Il y avait un test, un fameux test d'aptitude. Alors, c'était l'aptitude et non pas. Et là, les francophones, ils trouvaient que c'était passé, parce que finalement, quelqu'un qui venait. Des milieux favorisés avec des cours et tout ça, même s'il n'était pas issu de familles anglophones, il pouvait accéder à l'école anglaise. Alors, un test d'aptitude. Alors, c'est même la loi 22, Robert Bourassa pensait que ça allait être correct, mais non, ça a emmené l'élection, finalement, c'est un facteur qui a emmené l'élection du Parti québécois.
Mais avec les Jeux olympiques...
En 1977, ils ont adopté la loi 101.
D'accord. Et allons-y...
Et la loi 101, c'était... c'est là de la séparation. C'est-à-dire qu'il n'était permis d'aller à l'école anglaise que les Québécois, les enfants des familles anglophones, donc il fallait qu'ils soient nés au Québec, les parents. On appelait ça la clause Québec.
La minorité
tandis
historique avait...
La Constitution de 82 a parlé après. Non, c'était la clause Canada. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffisait d'être né au Canada pour pouvoir aller à l'école anglaise.
Oui, OK. Mais dans le fond, on visait que les immigrants arrêtent de passer à la culture anglophone dans l'extrême majorité. Et on a réussi quand même en quelque façon. Penses-tu que sans le Parti québécois, le français aurait reculé de façon très importante? Les mandats, surtout de 76 et 80, par rapport à ce qu'on
connaît. Oui. Mais la loi 101, adoptée en 1977, a été contestée d'abord par des groupes, et puis ça est allé à plusieurs fois à la Cour suprême. Et puis là, je pense que, de mémoire, 110 fois, elle était déboutée.
Les amendements.
Ils appellent ça
la gruyérisation, même si c'est un mot qui n'est pas nécessairement dans le dictionnaire, ça a été gruyérisé, il y a plusieurs trous là-dedans, mais il y a eu des effets bénéfiques quand même, malgré ces attaques-là.
Ben, sais-tu qu'on n'en parle plus, mais la dernière tentative là, pour renforcer la langue française, c'était en 2012 par le gouvernement de Pauline Marois, avec la loi 14. Mais auparavant, le Bourassa, le gouvernement de Bourassa 2, parce qu'il est revenu au pouvoir quelque chose, notamment au niveau de l'affichage, puis son ministre à l'époque, c'était Claude Rahun, qui a finalement réussi à faire passer la loi sur l'affichage ou la prédominance du français sur l'anglais. Puis là, il y avait, dans le potelard du temps, il fallait sortir les règles pour voir si les deux tiers étaient francophones, le tiers anglophone. Alors, c'était pas drôle, mais Avec le temps, ça rentrait dans les mœurs. Puis de toute façon, à chaque fois qu'il s'est contesté par le gouvernement, que le Québec voulait faire quelque chose, c'était contesté par Claude Ryan, s'est servi d'une clause permise dans la Constitution, la clause non-obstant.
Ouais.
Alors, il le faisait, mais à chaque 5 ans, il faut revenir à la charge.
Voilà.
Et puis là, quand Charest, un peu plus tard, lui, il disait qu'il faut arrêter de se servir de la clause non-obstant.
Ouais.
Il a trouvé une façon de s'accommoder avec ça. Et finalement, il a fait passer que quelque chose qui était acceptable, qui n'a pas été contesté par les anglophones par après. Et là, c'est cet héritage-là qu'on vit. Alors, finalement, les gens du côté francophone sont bien perçus, ça ne donnait rien de contester au niveau de la Cour suprême. On perdait tout le temps.
Quelle est ton appréciation de ce que peut amener Trudeau père sur les langues officielles? Ça a été mis dans la loi suprême quand même en 1982. Est-ce que ça a véritablement changé le sort du français au Canada et évidemment particulièrement au Québec, à ton avis?
Ben, ça a changé. Ça a changé. De façon théorique, c'est bien beau de parler de bilinguisation, puis qu'à Air Canada, les gens pouvaient être servis en français.
Pas encore aujourd'hui, partout. C'est pas nécessairement évident, ça, non?
Mais c'est là où le nombre le suit, puis bon. Moi, je peux jamais parler de ça, mais j'ai donné un cours...
Les primeurs?
Pour l'université. Non, mais... c'est à l'occasion du sommet qui a emmené un sommet après... Ça, c'était en 92, où que, finalement, l'Association canadienne française de l'Ontario a changé de nom pour devenir l'Association des Franco-Ontariens.
Ouais.
Alors, un peu le même genre de démarche, si tu veux, que le Québec avait fait en 69. Avant, on était des Canadiens français, puis là, finalement, ils sont mis à s'appeler les Franco-Ontariens. Mm-hmm. Alors, ça les rendait pas majoritaires comme nous autres. Mais alors, tu vois, tout un changement de s'affirmer, de dire « nous sommes des Franco-Ontariens ».
Ça a pu permettre, hors Canada, un peu d'affirmation quand même, puis évidemment, quelques accommodements pour la vie quotidienne. Au Québec, ça n'a pas amené grand-chose. Mais, peut-être même, en fait, de la nuisance, vu que l'anglais acquérait un statut qui était géré par le fédéral, finalement, carrément.
Ben, au Québec, ça permettait, au Québec, ça a permis au fédéral de supporter des groupes qui s'opposaient à la loi 101, de l'emmener dans différentes cours, puis oups, ça aboutissait à la Cour suprême, puis le fédéral est justifié d'appuyer financièrement ces associations-là.
Ouais.
Mais en Ontario, puis dans le reste du Canada, le mouvement est... C'est l'année passée que finalement... un projet de 92 de faire une université francophone à Toronto. C'est le principe, puis là, ils ont un début d'embryon, puis t'en souviens,
Doug Ford n'a pas...
de l'Ontario.
Il n'a pas aimé ça beaucoup.
Il avait défait ce que le gouvernement libéral antérieur.
Ouais.
Alors, c'est une lutte encore constante. Mm-hmm. Puis, en fait, quand on parle de bilinguisation, ça se passe au Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, admettons-le.
Mais la seule officielle.
La population qui parle français, des deux langues, la majorité des personnes bilingues, c'est au Québec. Dans le reste du Canada, moi, j'ai été député au fédéral 10 ans, puis avant, animateur, puis tout ça, j'ai tout visité, toutes les provinces, les groupes de francophones. Puis je cherche pas à... Je veux dire, les personnes bilingues parlant parfaitement les deux langues, habituellement, là, puis quelqu'un d'assez connu, parce qu'il veut se lancer en politique, puis parce qu'un jour, il veut devenir ministre. Puis à part ça, là, j'ai l'air d'exagérer, mais...
C'est plutôt rare.
Sûrement un peu, mais c'est pas très populaire de parler français. Moi, j'ai vu un député ukrainien me dire, « Ah, moi aussi, il disait ça en anglais,
j'ai deux langues.
Le Canada soit bilingue.
Ouais. »
J'ai dit, « Ouais, ben, je suis content d'apprendre ça, en fait. » Non, il dit, « Vous vous trompez. Je veux que le Canada soit... » anglophone et ukrainien.
Nous parlions de possibilités d'anglicisation. On était autour de l'enseignement de l'anglais. Et je vais repartir sur des nouvelles bases là, pour cette deuxième moitié de ce podcast, cette balado-diffusion sur le français, en demandant à Antoine Dubé l'enseignement de l'anglais pour les francophones. Beaucoup de gens considèrent que ça peut nuire à la qualité du français au Québec et même à son avenir. Puis je te donne mon cas personnel. J'ai 35 ans. J'ai appris mon anglais après, j'ai appris un peu au secondaire quelques bases, mais c'est très faible. Puis ensuite, j'ai voulu, mais comme tu disais tantôt, je veux faire de la politique peut-être un jour, je ne sais pas, être ministre. Mais je me suis toujours dit que c'était utile et je l'ai fait. Et c'est effectivement une très belle corde à mon arc. Puis je dirais même que c'est plus qu'une corde. Par contre, je me rends compte qu'il y a des mots qui viennent en anglais.
Oui.
Mais comment on fait pour trouver l'équilibre entre les deux? Parce que ça t'ouvre les portes quand même du monde. C'est la langue des affaires. Et pour l'information, comme ce dans quoi je travaille actuellement, ça, je pourrais pas me priver de sources en anglais. Par contre, ça me fatigue moi-même les anglicismes qui me viennent dans la tête.
Moi, personnellement, je vais dire, je suis pas trop sévère avec ça. Comme je l'ai dit au tout début, je viens d'un milieu francophone de façon naturelle, 98%. Puis j'ai été... Le joual, ça ne m'a jamais exacerbé, bien au contraire. Pour avoir été en France 5 fois, pour avoir connu... Ouais. Les premières personnes qui nous enseignaient au cégep, dans les premières années du cégep, il y avait beaucoup de Français de France qui nous enseignaient. Oui. Puis, à quelque part, ils nous en gardaient de haut. Alors, on avait, selon eux, un mauvais français, une mauvaise qualité de français. L'important de la langue, c'est que c'est d'être capable de s'exprimer. Puis, moi qui ai suivi des cours d'anglais par après, mon professeur, j'étais à Ottawa, cherchait à m'améliorer. Il m'a appris que 40% du vocabulaire anglophone, de l'anglais ou du français, le 40% c'est un tronc commun. C'est juste des petites variations. Alors, c'est des langues quand même qui ont vécu dans l'histoire, ils ont vécu côte à côte.
Qui sont,
il y a des emprunts.
Échangés énormément.
De ça.
Bon, puis il y a énormément... d'expression parfaitement française dans le parler américain, canadien, anglais. On ne soupçonne pas à quel point eux autres, pour les anglophones, ça a une valeur ajoutée d'amener un mot étranger à une conversation, tandis que nous, on se perçoit tout de suite comme ayant fait quelque chose de mal. Ce n'est pas nécessairement le cas, selon les visions. Mais quand même, ça peut avoir certains effets. Si c'était à grande échelle, Antoine, le presque bilinguisme ou une très grande connaissance de l'anglais, est-ce qu'on peut convenir que quand même ça aurait des effets sur la présence du français et sa vitalité à moyen et long terme?
Alors, là, tu me poses la question à moi. Moi, je vais te répondre un peu comme François Legault. dans la balance des avantages et des inconvénients, si le fait de poursuivre, à chaque fois que quelqu'un fait un mauvais usage d'un mot, puis un anglicisme, etc., on peut le reprendre poliment. Mais si ça devient excessif, ça peut devenir un repoussoir aussi.
Oui.
Alors, et les gens disent, c'est bien compliqué, ce langue-là, ça ne m'intéresse pas. C'est bien plus agréable, c'est plus facile en anglais.
D'autant plus les immigrants qui, là, vont avoir de la difficulté à comprendre qu'on se fasse ces critiques-là, alors que on travaille très fort pour qu'ils parlent notre langue. Et là, ils arrivent en France, ils peuvent se faire ces critiques-là. Si au moins on est exempt d'autoflagellation à ce point-là ici, c'est une bonne chose.
Oui, tu prononces un bon mot. Autoflagellation, c'est le contraire de la fierté. Moi, je suis partisan de la fierté. Affirmons haut et fort qu'on aime le français, qu'on en est fier, que c'est quelque chose qui nous identifie, quelque chose qui nous distingue dans le monde, parce qu'un Québécois francophone, là, c'est pas un Français.
Non.
De France, c'est pas c'est pas un Africain non plus.
Voilà.
Alors, on est ce qu'on est, puis soyons, moi, je suis partisan qu'on en soit fiers.
Puis d'ailleurs...
Maintenant que l'Académie française, ça existe, puis qu'il existe des linguistes, puis qu'il existe des spécialistes, moi, je veux très bien, mais puis ça s'améliore. Il y en a un, en tout cas, il y a un linguiste qui s'appelle... je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas. Il nous fait toujours des petites leçons de mots français à chaque jour, là, à la radio, on entend ça, puis on voit ça sur le net aussi.
Ouais.
Alors, ça, c'est très bien, ça nous stimule à s'améliorer, mais il ne faut pas que ça nous écrase, il ne faut pas que ça écrase la majorité à faire le contraire de ce qu'on veut que ça soit. Soyons fiers d'être Québécois. Soyons pas si honteux que ça, là, de l'ancien voile,
la
etc.
La honte judéo-chrétienne dans la langue n'a pas nécessairement sa place. Puis il faut se comparer aussi les Français, côté utilisation d'anglicisme, ils sont assez particuliers. Il n'y a pas vraiment de retenue non plus.
Exactement. Ils n'ont pas beaucoup de leçons à nous donner.
Non.
Moi, chaque fois que j'étais en France, là, puis à un moment donné, en 70, c'était... 2 mois comme animateur. Et puis, à un moment donné, à la fin, je leur disais, « Oh, bon, vous avez un accent. » Ben, le vôtre est charmant aussi. Hein?
Mm-hmm.
Alors, pour leur faire voir que, finalement, le français international, c'est le français que les lecteurs de nouvelles à Radio-Canada me rencontrent là, dans la rue, après, ouais. Ils vont te parler autrement.
Mais quoi que...
La langue, c'est faut pouvoir communiquer.
Des fois, il y en a qui on se demande s'ils sont capables de sortir du langage châtier. Je veux juste revenir sur l'Académie française. C'était une parenthèse pas nécessairement si utile ce que je viens d'amener. Mais bon, l'Académie française, week-end est un mot accepté, mais dire bon matin serait un anglicisme. Faisons en joual un peu de millage sur l'Académie française, ensemble.
Ben, dans les fêtes, ça l'est. Mais... Antoine puis moi, on sait ce qu'ils veulent dire. J'aime mieux me faire dire bon matin que good morning.
Puis que bon week-end.
Bon week-end.
Bon week-end.
Puis les autres dans le parking. Puis non, j'ai rien contre eux, mais il n'y a pas beaucoup de leçons à nous donner à mon point de vue.
Effectivement, mais l'Académie française aussi, ces Français, on devrait peut-être se doter d'une autorité. Pas juste pour l'enseignement, là, pour le principe de la langue, pour déterminer ce qui deviendra un mot, ce qui sera accepté comme anglicisme. Est-ce que tu considères que ce serait temps qu'au Québec, on se dote d'une une autorité similaire à ce que peut représenter l'Académie française en France?
Oui, mais en fond, en tout cas, je pensais pas que tu allais me poser cette question-là, mais tu m'as toujours parlé directement, on va te parler directement.
On aime ça.
Le seul Québécois qui est à l'Académie française actuellement...
Daniel Laferrière.
Daniel Laferrière. Il est d'origine haïtienne, mais il parle un français comme les Français le parlent.
Oui.
Alors, et puis, il est un des plus jeunes. Alors, quand tu rentres dans l'Académie à 65, 70 ans, je ne suis pas sûr que tu es prêt à tant transformer la langue.
Non.
C'est ça que je dis, là. Je dis pas qu'ils n'ont pas raison d'être là, mais ça ferait peut-être du bien d'avoir des
du
courants
défi.
De pensée plus jeunes.
Du challenge, comme diraient des Français. puis qu'on en a une au Québec, bon, ça ne serait pas farfelu, dépendamment des ressources qu'on y mettrait et tout ça. Ça pourrait
il existe déjà quand même
positifs.
L'Office de la langue française.
Oui. Oui, et plus en mode police de pancartes de commerce et même de grandes erreurs ont été faites sur ça avec les pouvoirs qui leur étaient conférés. Tandis que si on avait vraiment une institution qui n'est là que pour une autorité, pour déterminer des conventions langagières et aurait pas cette aura-là de policier un peu brutal à certaines occasions... Ça aiderait probablement, non?
Ben, pourquoi pas? Je ne m'imposerai pas, mais moi ce n'est pas le sens de mon combat. Moi, je travaille sur la fierté, renforcer la fierté des Québécois pour leur langue. Alors, et je pense que c'est la perte de fierté qui fait que le peuple québécois, les francophones, sont devenus un peu... avec le temps, complaisant. Complaisant dans le sens le plus positif du terme, parce que j'ai cherché des synonymes, puis les autres sont moins agréables à entendre. Mais en fond, on s'est un peu beaucoup laissé faire, puis avec le temps, d'abord la conquête, les patriotes pendant toute l'histoire, les défaites, les deux derniers référendums, et alors les gens ont plus le goût de terre. Puis en plus de ça, il est arrivé un événement qui est pas rien, là, c'est la mondialisation.
Oui.
Là, avec la COVID, on en prend un coup, mais il reste abonné avec
pas son dernier mot non plus.
Apparu, l'Internet. Puis l'Internet, là, ben là, quand tu vois des jeunes qui veulent chanter puis que leur chanson soit connue à travers le monde, tu sais, c'est l'Internet, puis ça se passe en anglais. Mm-hmm. Ça, c'est une pression qui est très forte, ouais. Qui est difficile de lutter. Autrement que, moi, j'ai rien contre quelqu'un qui parle anglais. Puis au contraire, s'il peut parler l'espagnol, puis tant mieux s'il parle une autre langue.
Oui.
Tant mieux. Mais n'oublions pas ce qu'on est, puis arrêtons de nous excuser parce qu'on existe.
À l'international, le français a une place intéressante et ça passe notamment beaucoup par les pays africains. Penses-tu que, comme nation ici, on devrait tenter davantage d'associations et de collaborations? Tu sais, il y a l'Organisation mondiale de la francophonie qui est perçue comme un gros party par l'opinion publique bien souvent maintenant aussi. Est-ce que ça pourrait pas passer par plus de bilatéralité, d'entente entre nations ou... Le français est répandu, mais spécifiquement pour l'Afrique. Est-ce qu'on en fait assez pour que le Québec soit bien positionné pour l'avenir où le français passe par l'Afrique?
Je vais dire quelque chose de délicat, puis quitte ça me retombe sur le nez. la plupart des Africains, des pays africains, il ne faut pas oublier, le français, c'est leur seconde langue. Ils ont une langue... je suis allé, moi, à trois reprises en Afrique. Par exemple, au Tchad, il y a 120 ethnies différentes.
Ouais.
Alors, ils apprennent leur ethnie maternelle, puis là, on leur demande de parler français. Oui, très bien. Mais si je demande à toi, Guillaume, peux-tu être l'ambassadeur sur la scène mondiale pour défendre l'anglais? Tu vas dire oui, mais il y a sûrement d'autres ailleurs qui sont mieux que moi. Très, très bien.
Ouais.
Mais ce que je veux dire par là, c'est leur seconde.
Ouais.
C'est pas comme nous. Nous, le français, c'est la langue maternelle. Mm-hmm. C'est la langue qu'on a appris sur les genoux de notre mère, puis notre père, puis tout ça. Puis, comprends-tu, c'est notre identité.
Mm-hmm.
C'est ce qu'on est. C'est ça qui nous distingue. Alors, moi, les Africains, j'ai rien contre eux, bien au contraire. Puis tant mieux, c'est par le nombre, parce qu'ils ont encore des fortes natalités.
Un baby boom.
C'est ça leur force actuellement.
En bon français.
Oui, et puis nous autres, malheureusement, ben, on reste à peu près le même nombre tout le temps. On est presque... Si on ne fait pas attention, là, on est rendu à 78,4% de la population au Québec, hein, les francophones de langue maternelle. Ben, normalement, en bas de 80%, c'est très dangereux pour que ce soit diminué. Idéalement, on devrait être 80, mais en tout cas, on est tout près de 80.
Parlons-en de l'avenir.
Ça nous permet de rester en vie, mais si on veut se développer, ben, il faut rester unis. Faut pas commencer à dire un tel parle mal français, puis lui, il le parle très bien, puis tout ça. Non, restons ensemble pour mettre la lutte, pour rester ce qu'on est.
Parlons-en de l'avenir. Le français, oui, c'est une très grosse partie de la culture québécoise, canadienne ou canadienne-française. Par contre, au fil de l'histoire, sur des échelles plus larges, c'est jamais arrivé qu'une langue se maintienne sur des millénaires, par exemple. Et mettons-nous dans une situation hypothétique avant peut-être des millénaires où l'anglais devient répandu au point où c'est la langue qui est la plus présente dans les milieux de travail, dans les chaumières, etc. Penses-tu que le Québec pourrait demeurer avec une culture si particulière comme on a comme acquis aujourd'hui ou intrinsèquement si le français recule on perd d'autres éléments culturels et cette culture-là disparaît.
C'est sûr. C'est sûr que ça représente un danger, puis beaucoup sont préoccupés par ça, puis moi inclus. Mais en même temps, si on se place, mettons, on se met à l'échelle mondiale, là, puis on est ni francophone ni anglophone, puis on se prend tous les deux, puis on regarde le phénomène des langues. Savais-tu que les anglophones s'inquiètent beaucoup pour le sort de l'anglais parce qu'ils ont la première place, c'est reconnu. Mais en Californie, ils ont adopté des règlements parce qu'ils craignent beaucoup les latinos qui remontent de plus en plus, sont présents à Los Angeles et tout ça, ils passent le règlement pour protéger leur langue. Puis ça, il y a d'autres États américains dans le sud, etc., qui font des mesures comme ça. Et les anglophones à l'échelle mondiale s'inquiètent beaucoup du chinois. Le chinois en nombre, là. Écoute, un peu, c'est une menace pour bien du fort.
Pour en parler aux gens de Vancouver.
On voit ça une menace économique, mais une menace aussi culturelle, éventuellement. Alors, si on se met à avoir peur, je pense qu'on ne sera pas tout seul dans ceux qui ont peur. Mais oublions pas que le français, c'est la quatrième langue parlée au monde. Okay. C'est pas rien. La deuxième langue au niveau des affaires, c'est la langue que, quand les gens veulent apprendre une seconde langue, là, je pense que c'est la langue qui est la plus recherchée.
Ça a toujours un prestige. Puis dans les publications scientifiques aussi, on est très présent. Il y a l'allemand là, qui a une percée particulière vu le nombre de locuteurs, mais le français est quand même aussi bien placé dans le.
Puis à cause de leur économie. C'est parce que la langue, le choix de la langue, souvent suit le choix économique. Le choix, c'est normal. Les gens veulent améliorer leur sort économique. Ils regardent la langue pour pouvoir pour s'améliorer à ce niveau-là. Le français n'est pas menacé pour demain matin au Québec. Là. Parce que moi, je suis né en français, puis j'ai 73 ans. Je ne m'inquiète pas pour moi, évidemment.
Ni les prochaines.
La prochaine génération, mais attention à la troisième.
Ouais. Voilà. Je te nomme premier ministre demain matin, Antoine Dubé.
Ah, ça n'arrivera pas.
Première mesure, j'ai pas ce pouvoir-là non plus encore. La première mesure pour la protection du français, à prendre, à ton avis, ou en tout cas la première qui te vient à l'esprit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait améliorer en termes de législation ou de mesures gouvernementales pour qu'on s'assure que cette troisième, quatrième génération-là demeure dans la même culture qu'on vit actuellement.
Oui. Premier dossier urgent, étendre la loi 101 au niveau collégial.
OK.
Ça m'apparaît bien important. Parce que quand les gens choisissent... Parce que il y a aussi éliminer les phénomènes des écoles passerelles. Je m'explique, là. Les écoles passerelles, c'est que les gens envoient leurs enfants dans... Des francophones envoient des enfants dans l'école privée pendant 3 ans dans l'école anglophone, ça les rend admissibles à aller à l'école anglaise. Ça veut dire qu'il y a une espèce comme nos collèges classiques qu'on a rejetés là, dans les années 70, là, ben, ça existe encore. Ça, c'est au niveau de l'enseignement très, très important.
Ouais.
L'autre, ben, évidemment, c'est élargir la loi 101 à toute entreprise au Québec, même en bas de 50 employés.
De temps d'employés, oui.
Assujettir le gouvernement, les institutions fédérales à la même réglementation, actuellement, sont exemptées. Puis pour faire
donc, les banques.
Il faudrait devenir indépendant.
Bon, c'est c'est une terminaison que j'aurais dû voir venir, que je considère logique.
Je n'étais pas surpris.
Dans ta carrière, non. Mais je n'y avais pas pensé nécessairement. C'est sympathique comme ça. On n'est pas un podcast sur la souveraineté, mais en recevant des souverainistes notoires comme toi, évidemment, qu'on peut aller là. Et c'est pas un problème. Ça a été très apprécié. Ça a été fort intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses à beaucoup de gens. Merci bien gros, Antoine Dubé.
Bon succès dans ton... je sais pas combien tu vas interroger de personnes. Mais c'est une excellente initiative.
Merci.
Ça, c'est peu importe ce que les gens en pensent ou vont discuter, parce qu'il faut avoir des points de vue différents, tout ça, c'est comme ça que la démocratie s'enrichit.
Exact. On va avoir des anglophones de tous acabis qui ont lutté contre la loi 101. On va avoir d'autres souverainistes. On essaie de prendre la médaille et la tourner de tous les côtés.
Puis si, hors d'onde, je peux te soumettre un nom, tu me rappelleras, va te soumettre quelqu'un avant qu'il meure. Là.
Ah bon?
Tout ce dont j'ai parlé, là, il y a un gars qui habite Saint-Romuald.
Ah bon?
Il a tout vécu ça, ses péripéties. Là, je te le donnerai.
Dans un prochain épisode des Salles du Français, merci énormément, Antoine Dubé. À la prochaine.
Bonjour.
C'était la deuxième édition des Salles du Français.